Vous pressez, hein?
Oui.
Voilà. Très bien. Vous m'entendez bien, ça va? Très bien. Très bien. Voilà, alors j'ouvre le feu de notre année, qui va porter, comme vous avez vu dans le programme, sur la liturgie. Hein? Nos liturgies respectives et le sens profond de ces liturgies qui sont le fondement même de nos communautés. Alors, j'ai pensé, en ouvrant notre année, et parlant de la liturgie, de mettre comme titre de mon intervention que la liturgie, c'est l'expérience de l'alliance en accomplissement. Alors, je vais bien souligner, parce que vous souvenez, dans les années précédentes, nous avions fait tout un programme sur l'alliance. Hein. Or, si nous oublions l'alliance, nous oublions entièrement le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Israël est le Dieu de Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela que la liturgie n'a de sens que se situe bien dans la dynamique de l'alliance. Voilà. C'est-à-dire de l'engagement de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Alors on va essayer d'approfondir cela. D'abord, l'alliance, nous l'avons déjà abordé bien sûr, mais nos liturgies sont toujours au cœur de cette alliance. Alors, l'alliance qu'est-elle ? Si nous ouvrons la Bible, l'alliance est l'échange de confiance et de foi entre Dieu et l'homme. Je dis bien échange. Confiance de Dieu en l'homme, mais l'homme qui découvre aussi la confiance que Dieu fait en lui. Fidélité de l'homme à Dieu. Mais l'alliance, c'est d'abord la fidélité de Dieu à l'homme. C'est toujours l'initiative de Dieu d'abord, hein, l'alliance. C'est Dieu qui prend l'initiative de cette alliance. D'ailleurs, la foi est l'initiative de Dieu. Vous vous souvenez, nous avions fait autrefois la différence entre religion et foi. La religion naturelle, qui est le besoin de l'homme religieux, et qui est initiative de l'homme. Voilà. Tandis que la foi, c'est initiative de Dieu. Nous avions beaucoup développé ça, si vous vous souvenez, avec Abraham, le père des croyants, hein, auquel d'ailleurs Dieu lui demande « Sors de ton pays, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » C'est un appel, la foi. Hein. Ce n'est pas la réponse, d'abord, un besoin sécuritaire de l'homme, c'est un appel personnel que Dieu fait à l'homme. Alors, et que cet appel, c'est notre réponse à nous. C'est une attitude de vie ensemble, de confiance et de foi. D'ailleurs, foi, ça veut dire confiance, hein. C'est l'étymologie même du mot, hein. Donc, c'est l'homme qui va vivre maintenant avec Dieu, mais c'est aussi Dieu qui vit avec l'homme. Et c'est Dieu qui, le premier d'ailleurs, prend cette initiative de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans l'alliance? Ne l'oublions pas, c'est dès la création, c'est dès le premier récit de la Genèse, ce qui est en jeu, c'est la réussite de l'homme, la réussite de l'humanité. Hein. Donc, c'est Dieu qui veut le bonheur de l'homme, qui appelle l'homme à la vie, mais qui ne peut pas appeler l'homme à la vie sans s'engager lui-même jusqu'au bout avec l'homme, et de ne vivre que pour l'homme. Voilà. Pour nous chrétiens, ça va plus loin encore. Il n'a pas pu appeler l'homme à la vie sans devenir lui-même homme. Pour nous chrétiens, c'est bien clair. L'incarnation de Jésus, il ne s'est pas fait homme parce qu'il y a le péché originel. Ça, c'est une théorie qu'on a souvent avancée, hein. Pour racheter l'humanité. Non. Si on prend les pères de l'Église des premiers siècles, saint Irénée ou autres, Dieu n'a pas pu appeler l'homme à la vie sans de lui-même devenir homme. Ça, c'est notre foi chrétienne. Mais si nous regardons bien la Bible, dans toute la tradition juive aussi, c'est un Dieu qui est engagé entièrement avec l'homme. Dieu est passionné de la vie de l'homme. Si vous regardez bien, ce n'est pas Dieu qui enseigne l'homme d'en haut, hein. C'est d'abord l'homme qui parle avec Dieu de sa vie, et Dieu qui est avec lui au cœur de tous les événements de sa vie. Et que dans cette alliance, tout ce qui touche l'homme touche Dieu, et tout ce qui touche Dieu touche l'homme, quand l'homme l'a compris. Voilà. Donc c'est ça l'alliance, et dans la Bible c'est bien clair, hein. À tel point d'ailleurs que l'alliance, c'est devenu la première image de l'alliance, ce sont les épousailles. Israël l'épouse et Dieu l'époux, où tout est partagé, où tout est vécu ensemble, et où la souffrance d'Israël devient la souffrance de Dieu, et où la joie d'Israël devient la joie de Dieu. Dans toute la vie, hein, attention, l'alliance, ce n'est pas simplement des rapports religieux. C'est des rapports avec Dieu qui touchent tout l'ensemble de l'activité humaine, tout l'ensemble de la vie, culturelle, politique, etc. C'est toute la vie de l'homme qui est engagée dans cette alliance, et Dieu est engagé avec. C'est ce qui explique que la Bible nous met Dieu vraiment au cœur de l'histoire. Si bien que la Bible, bien sûr, c'est l'histoire d'un peuple bien particulier, mais c'est surtout, c'est le fondement de l'histoire. C'est le fondement de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que pour cela que nous pouvons toujours retrouver dans la Bible l'éclairage pour notre histoire actuelle et notre histoire de tous les temps. Quand on dit selon les Écritures, il faut faire attention. Hein. Quand on dit c'est pas la Bible n'est pas du Nostradamus. Hein, ça s'est accompli selon les Écritures. Vous vous rendez compte, c'est écrit avant, ça devait se faire. Ça serait grave, hein, ça. Les Écritures, ça veut dire l'expérience de l'histoire. L'expérience humano-divine de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu dans son histoire, mais dans le concret de son histoire. Dans l'histoire telle qu'elle est, non pas telle qu'elle devrait être. Non pas dans une histoire idéale. Il ne faut pas chercher ça dans la Bible, hein, mais dans l'histoire de l'homme tel qu'il est. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas être scandalisé par la Bible, par les récits. Il y a les guerres aussi, ça fait partie de l'histoire. Hein. Mais Dieu est engagé dedans, est engagé avec l'homme au cœur de tout ce qu'il vit, et tout ce que touche l'homme touche Dieu. Et l'homme, peu à peu, il s'ouvre à Dieu parce que Dieu prend l'initiative d'aller plus profondément vers l'homme, toujours au cœur de sa vie et jamais en dehors de sa vie. Alors là, c'est un point important. Voilà, un premier point. Donc, hein, donc l'alliance, c'est cet échange continuel de confiance et de foi au cœur de toute l'activité humaine et des recherches de l'homme où Dieu s'est engagé avec. Ensuite, dans toute alliance, il y a des clauses. Voilà. Dans toute la Bible, il y a des clauses aussi, hein, dans l'alliance. Et là, nous voyons que ces clauses, hein, surtout avec Moïse, hein, les clauses, c'est les lois, la loi. Or, la loi, c'est la parole. Hein, faut jamais qu'on confonde. Hein. Nous disons les 10 commandements, mais dans la Bible, on ne dit pas les 10 commandements, on dit les 10 paroles. C'est la parole de Dieu qui est toujours ouverte, une parole toujours à rechercher. Alors, dans la loi, ben, il y a tout le fondement même de cette alliance avec les clauses. Et quelle est la clause fondamentale de cette alliance ? Ben, c'est l'amour du prochain. Dieu vit pour que nous nous aimions. Dieu vit pour que les hommes s'aiment. Nous voyons ça dans la Bible, déjà, hein. Et nous voyons ça aussi, nous, dans notre foi chrétienne. Jésus-Christ ne vit que pour que ceux qui croient en lui, les hommes, puissent s'aimer. Hein, qu'ils puissent s'aimer pour que les hommes s'aiment. Hein. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le projet de Dieu, c'est ce que Dieu, si vous voulez, c'est le sommet l'accomplissement de l'alliance. D'ailleurs, saint Paul ira très loin quand il ira dans l'épître aux Galates. Toute la loi et les prophètes se résument en un seul commandement, un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour Dieu, ce qui est important, c'est que nous nous aimions. Oui. Il est engagé pour ça, et si vous regardez dans toute la Bible aussi, dans toute l'histoire d'Israël, c'est que Dieu veut que son peuple s'aime, vive, et se met un amour qui leur permet de se construire ensemble. Ce n'est pas l'amour simplement affectif, hein. C'est un amour dans lequel on se construit ensemble. Troisièmement, l'alliance est toujours tournée vers l'avenir, vers un monde qui vient et que Dieu prépare. L'avenir, c'est Dieu qui vient, advenir, c'est Dieu qui vient. Ça m'arrive souvent, moi je me répète, hein, je fais la distinction entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce qui va se passer dans 10, 20 ans, 30 ans. Hein. Et il faut le préparer, le futur, nous en sommes responsables. Mais l'avenir, advenir, c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui ne cesse jamais de venir. Voilà. Alors vous voyez, on arrive à un âge où on n'a pas beaucoup d'avenir. Hein. Quand vous me parlez, moi, de 2020, hein, je ne sais pas si je serai là. Je n'ai pas beaucoup de futur. J'ai de l'avenir. L'avenir, c'est l'avènement de Dieu dans nos vies, hein, qui continue de venir chaque jour dans notre... Et ça, c'est notre espérance. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance sans cette espérance. L'alliance est liée profondément à la promesse, à l'espérance. Toute l'histoire est là, hein, de la promesse faite à Abraham, hein, d'une promesse qui est ouverte sur l'humanité, et le croyant, c'est celui qui croit à cette promesse, non pas la promesse dans laquelle une espérance passive, mais une espérance qui le rend actif et engagé profondément dans l'achèvement de cette humanité. Alors c'est pour cela qu'elle est tournée vers l'avenir. Et là, moi j'insiste, c'était le titre de la conférence que j'avais donnée au Temple, « Un monde inachevé pour que l'homme s'achève ». Alors c'est important de se dire ça. Dans la Bible, nous voyons un Dieu qui n'aime pas le tout fait. Il ne donne pas des choses toutes faites. Il n'a pas fait l'homme accompli. Mais l'homme dans sa liberté pour qu'il s'accomplisse. Il n'a pas fait une création achevée, hein, mais une création à achever, qu'il domine la terre et qu'il la transforme. C'est dans le premier chapitre de la Genèse. Et que l'homme, en achevant la création, qui n'est pas achevée, hein, parce qu'il est important, c'est pas d'achever, c'est que la création, c'est que l'homme s'achève lui-même en achevant la création. Soyons bien clairs. La création est inachevée, mais l'homme n'est pas là simplement pour achever la création. Matérielle, j'entends. Hein. Sinon, ça serait grave. Oui. Ça serait des rapports avec Dieu de serviteur à maître. Hein. Tandis que la création, c'est l'homme, hein, qui est solidaire de cette création. Adam, ça veut dire le terreux. Hein. Ça veut dire tirer de la terre. Hein. Il est solidaire de cette terre. Et il est appelé à un devenir. Voilà. D'ailleurs, si vous prenez dans le chapitre de la Genèse, ce passage que j'emploie toujours et que beaucoup les jeunes fiancés aiment bien pour leur mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne deviendront qu'un. C'est-à-dire qu'il y a une création nouvelle chaque fois. L'amour, c'est une création nouvelle. Il n'achève jamais. Voilà. C'est un achèvement qui est continuel. Alors je crois que là, c'est important. Nous croyons à un Dieu qui n'aime pas le tout fait, mais à un Dieu qui aime le se faisant. Hein, les choses qui se font pour que nous nous construisions. Donc ça veut dire que l'alliance, c'est la marche en avant pour notre achèvement, l'achèvement de la création, mais qui est l'achèvement de l'homme, et l'achèvement de l'humanité. Je crois que c'est important de se le dire. Voilà. Voilà, donc, c'est cette alliance avec l'homme qui est, j'insiste bien, pour toute la vie, hein, voilà, toute la création. C'est tout le récit de la Genèse, voilà. Et là, si regardons les alliances qui se sont faites successivement, nous les avions travaillées avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et avec Noé, c'est l'alliance avec la création, avec le monde, hein, avec la terre, parce que l'homme est la terre, c'est-à-dire l'homme est le milieu naturel dans lequel il vit, ne font qu'un. Hein. Nous sommes les fils des étoiles, comme disait un savant. Hein. Voilà. C'est vrai, nous sommes de la terre. Et de cette terre est achevée. C'est pour cela que dans la Bible, il y a la terre aussi. Hein. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'homme ne peut s'achever qu'en travaillant à l'achèvement d'une terre, du monde, et que cette terre devienne tout autre. Pour cela que la Bible, attention, il faut faire aussi, ce n'est pas un autre monde, c'est ce monde qui doit devenir autre. C'est ce monde de la transfiguration. C'est pour cela d'ailleurs que dans la Bible, ben, on croit à la résurrection des corps. Dans la Bible, il n'y a pas la distinction âme et corps. Hein. Ça, c'est les Grecs qui nous ont donné ça. Mais dans la Bible, le corps, ça veut dire l'homme tout entier, spirituel et matériel. Et que la résurrection des corps, c'est la transfiguration de l'homme, c'est l'achèvement de l'homme. Et c'est l'achèvement de l'humanité, hein, aussi. Et c'est l'achèvement de la création. Puisque l'homme est solidaire de cette création. Ensuite, ce qui est important, d'ailleurs à ce niveau-là, vous voyez, je rends hommage un peu à nos frères orthodoxes parce qu'ils m'ont fait découvrir, et c'est longtemps, c'est en 1980, on préparait le congrès eucharistique international et on avait fait un document sur l'Eucharistie catholique, protestant, orthodoxe. Et là, j'ai découvert comment nos frères orthodoxes voyaient dans l'Eucharistie la transfiguration de l'univers. D'importance. C'est-à-dire que l'univers et l'homme, ça ne fait que. Alors, ensuite, si nous regardons la Bible aussi, il y a toujours l'unité entre le culte et la vie. Le culte n'est pas qu'un culte religieux séparé de la vie. Il donne sens à toute notre vie, et le culte, c'est le culte qui est le source même de la vie. C'est-à-dire l'un et l'autre sont liés ensemble. C'est-à-dire qu'entre la liturgie et notre vie humaine, toute notre vie, j'entends, hein, il y a un lien fondamental. Puisque c'est Dieu, dans son alliance, qui est engagé avec nous, et qui est engagé avec nous dans toutes les dimensions de notre vie. Regardez la Bible, c'est ça, hein. Dieu est engagé avec l'homme dans tout ce qu'il fait. Et donc, cette unité, culte et vie, est extrêmement importante. Sinon alors, nous faisons un religieux séparé de la vie. Un religieux séparé de l'humain. Et là, je n'ai pas peur de le dire, le religieux séparé de l'humain, c'est une catastrophe. Parce que le religieux séparé de l'humain devient idéologique. Hein, si on oublie le sens de l'homme, on oublie en même temps le sens de Dieu. Donc, c'est une spiritualité qui n'est pas enracinée dans l'humain, hein, c'est une spiritualité qui peut nous conduire à des idéologies extrêmement graves. Voyez, c'est pour cela que la Bible, c'est une histoire d'humanité. De l'humanité qui fait que Dieu et l'homme ne font qu'un. Et ce qui touche l'homme touche Dieu, et tout ce qui touche Dieu doit toucher de plus en plus l'homme, mais d'ailleurs, ça touche Dieu parce que ça touche l'homme. Voilà. Alors, l'unité, donc, entre le culte et la foi. Sinon, nous tombons alors dans la religion abstraite. D'ailleurs, l'alliance commence par une responsabilité, ça commence au début, ça. Souvenez-vous de l'alliance avec Noé. Dans la Genèse, chapitre 9, verset 6, qu'est-ce qu'il dit, Dieu ? Il dit, « Je demanderai compte de la personne humaine. Je demanderai compte à chaque homme pour l'homme. » Donc il engage là dans une responsabilité. Oui. L'alliance, c'est notre responsabilité humaine, les uns et les autres. D'ailleurs avec Abraham aussi. Hein. Si vous prenez Abraham, c'est le fameux passage où Abraham supplie Dieu de ne pas détruire Sodome. N'est-ce pas ? Ils se sont responsables et ils discutent avec lui. D'ailleurs, la Bible, c'est très beau parce qu'ils discutent là à la manière des marchands de tapis. Hein. Ça monte très haut. S'il y a 50 justes, il n'y en a pas. Non, 10 justes, voilà. Mais il essaye, c'est-à-dire qu'il devient responsable de l'homme. Voilà. Et là, je pense que dans le récit, on présente encore un Dieu qui détruit Sodome. Mais je pense que le récit a dû être écrit à une période avant le récit de Noé. Voilà. Alors, parce que là, il faut dire aussi que dans la Bible, Dieu accepte d'être vu par l'homme d'une certaine manière. Hein. C'est comme le petit enfant, il voit ses parents d'une certaine manière, à mesure qu'il grandit, il le voit autrement. Alors, il ne faut pas être étonné que dans la Bible, il y a des manières de présenter Dieu qui sont le signe d'un certain temps infantile du peuple de Dieu, et que Dieu respecte. Je crois qu'avec vos enfants, vous avez été comme ça quand ils étaient tout petits. Hein. On se met à leur niveau. Hein. Dieu marche avec nous et grandit et nous aide à grandir à partir de ce que nous sommes. Et aussi, cela nous dégage, ce qui est un point important de l'alliance, c'est, et tous les prophètes vont justement réagir, c'est le danger du ritualisme. Attention. Il faut bien des rites. Les rites font partie de la vie. Hein. Nous avons tous des rites. On s'est tous serré la main, on s'est fait la bise tout à l'heure. Il y a des rites. Hein. Mais ce ne sont pas que des rites. Ils sont le sens d'un cœur, d'une relation profonde. Voilà. Les prophètes s'élèvent contre le ritualisme parce que, à ce moment-là, c'est le rite qui devient magique. C'est le rite qui agit pour le rite. La puissance est dans le rite sans engagement de l'homme. Alors à ce moment-là, ce sont des rapports avec Dieu dépersonnalisants. Dieu ne veut avec lui que des rapports personnalisés. La foi, il n'y a que chacun d'entre nous qui puisse répondre. Je pense toujours à ce que disait, demandait le Christ à ses disciples. Il disait, pour vous, qui suis-je ? Jésus ne dit pas, qui suis-je ? Car si quelqu'un me demande, qui suis-je ? Qui es-tu ? Alors je peux sortir ma carte d'identité et puis dire je m'appelle un tel Raymond Barcellini, né à tel endroit, etc. Mais si quelqu'un me demande qui suis-je pour toi, il n'y a personne qui peut répondre à ma place. Hein. Hein? C'est que cette réponse ne peut être que la mienne. On ne peut pas répondre par procuration. Et là, c'est les rapports personnalisants. Et Dieu ne veut avec l'homme que des rapports personnalisants. C'est le sens de la dignité de l'homme, de la vérité de l'homme. Donc, c'est pour cela que les prophètes s'élèvent contre le ritualisme, qui nous menace tous d'ailleurs, hein, parce que le ritualisme, c'est des fois la manière rapide et irresponsable de faire agir Dieu dans nos vies. Nous créons toujours le Dieu des irresponsables, le Dieu qui agit à notre place. Or, le Dieu de la Bible, c'est le contraire et absolument le contraire du Dieu des irresponsables. Et l'alliance, ben, se fait, il faut le dire, avec un peuple. Hein? Dieu fait l'alliance avec un peuple, l'Exode, c'est ça, hein? Souvenez-vous. Et quand il a fait alliance, c'est avec tout le peuple. Je ne vais pas relire le texte, hein? Vous pouvez lire dans l'Exode 24, 3, 8. Ben, il s'adresse au peuple en disant « Voulez-vous ?» Voilà. Alors le peuple dépend, oui, mais c'est le peuple tout entier. Donc l'alliance, ce sont des personnes et un peuple. Je m'explique le pourquoi. C'est important ça. C'est important parce que c'est dans la relation avec l'autre que l'homme s'accomplit. L'homme est un mystère de relation. qu'on a assez mis en avant à l'heure actuelle, un peu, je pense, en effet, toute la pensée personnaliste, hein, avec Emmanuel Mounier, tout ça. Bon, la pensée personnaliste distingue bien l'individu de la personne. La personne ne s'accomplit que dans une relation. Hein, il nous a créés dans une relation. Il nous a créés pour une relation entre nous. Vous en faites l'expérience. Je crois que toutes les psychologies et les pédagogies le disent. Hein. Le petit bébé ne prend conscience de son moi que parce qu'il y a un tu. Il peut dire je parce qu'il y a un tu en face. C'est dans la relation avec sa mère ou son père qu'il prend conscience de son je. Donc c'est dans la relation avec Dieu qu'on prend conscience de soi, mais c'est dans les relations des uns avec les autres. Or le peuple, c'est qu'on se construit dans une relation. Parce que c'est la condition pour que l'homme, se construisant comme peuple, se construise dans la liberté. Car attention, qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, dans la Bible, est toujours liée à la responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Sans responsabilité, c'est une fausse liberté. Et d'ailleurs, même le premier appel de Dieu, c'est la responsabilité. Hein, je réponds de moi-même, je réponds de ma vie pour que je me construise vraiment comme être humain. Et je ne peux répondre de ma vie que si j'accède à une liberté profonde et responsable. Alors, c'est pour cela que le peuple, se construire comme peuple, c'est se construire ensemble dans une véritable liberté. Je pense à cette définition qui est un peu abstraite, je la tiens du Père Gann, un jésuite que j'aime beaucoup, qui dit que la liberté, c'est une capacité de communion dans une commune responsabilité. Donc c'est une capacité de communion avec les autres, mais attention, pas communion sécurité affective, hein, communion avec l'autre dans une commune responsabilité. Voilà. On ne se construit que là. Oui. C'est pour cela que les communautés juives et chrétiennes, hein, dans la Bible, c'est des communautés qui se construisent dans une commune responsabilité. C'est là que, d'ailleurs, vous vous souvenez, j'ai cité ça l'autre jour aussi au Temple, hein, quand il y a les 12 tribus en Israël. On voit ça dans le livre de Samuel. Voilà. Et puis, Dieu, qu'est-ce qu'il est? Son projet, c'est de faire que les 10 tribus se construisent ensemble, hein, dans une commune responsabilité. Or, elles sont incapables. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles réclament à Samuel un roi. Donne-nous un roi. Pourquoi? Parce que le roi, ça vient d'en haut, c'est l'homme providentiel qui fait qu'il va faire cette unité. Mais ça ne vient pas de vous. Hein. Et Samuel, il dit, non, il ne faut pas avoir de roi, hein. Vous n'êtes plus un peuple prophétique qui vous construisez comme libre et responsable. Oui. Et le peuple insiste. Et puis Dieu, il se tourne vers Dieu. Puis Dieu, ben, il marche avec l'homme. Hein. Ils ne sont pas prêts encore. Il dit, ce n'est pas contre toi qu'ils en veulent, c'est moi. Hein. Et ils veulent encore le Dieu idole. Hein, ou le Dieu providentiel. Remarquez que dans la Bible, le mot « providence » n'existe pas. Hein. On ne le voit qu'une fois dans la traduction des Septante, dans la traduction grecque. Parce que dans les Hébreux, Dieu est tellement présent à l'homme et dans tout ce qui fait sa vie, voyez, et il chemine avec lui. Et Dieu respecte l'homme, là où il est, il ne peut rien. C'est ça la liberté. Et c'est là qu'on voit quelque chose de surprenant. C'est que Dieu dit à Samuel, ils veulent leur roi, bien Dieu leur en croit. Hein. Et puis ensuite, ben, il faudra qu'il avance avec l'homme qui fait sa propre histoire. Ça, c'est très important, ça. Dieu n'est pas la providence dans l'histoire qui va agir à notre place. C'est le Dieu de l'Alliance qui n'a pas un projet sur nous, mais un projet avec nous. Au cœur de tous les liens et les responsabilités de notre histoire. Voilà. Donc ça, c'est important. L'alliance avec un peuple, alors ce qui veut dire que nos communautés et que nos liturgies ben, sont toujours communautaires. Mais communautaires pour exprimer justement un peuple qui se construit. D'ailleurs, synagogue, ça veut dire rassemblement. On est ensemble. Voilà. Donc c'est. Et puis pour nous aussi, en Eucharistie, pour les chrétiens, ben, nous parlons toujours que nous nous construisons comme un seul corps, hein, voilà, du Christ. Donc c'est. Et là, il faut bien dire que l'habitation de Dieu, même dans la Bible, hein, dans la Bible, il y a des hésitations souvent par rapport au temple. Pourquoi ? Parce qu'on risque de faire du temple un temple à la manière des religions païennes. Il y avait des temples partout, avec des pèlerinages au temple, etc. Vous voyez, hein, le temple d'Épidore, oui, il y avait du monde autant qu'à Lourdes, hein, pour les guérisons, pour tout ça, voilà, c'est ça, vous voyez. Et qu'on risquait à ce moment-là de retomber, ben, dans le ritualisme religieux païen. Alors, le temple, c'est toujours le lieu de la responsabilité. C'est là où le peuple est appelé à se construire. Voilà. Et là, pour nous, chrétiens, je pense à la... Mais les juifs sont d'accord aussi, puisque les prophètes disaient la même chose. C'est que Jésus dit à la Samaritaine, qui lui demande, est-ce que sur le Garizim qu'il faudrait adorer Dieu, ou à Jérusalem ? Où ? Nous, on l'adore au Garizim, les Samaritains, vous les Juifs, sur Jérusalem. Et Jésus répond, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le Garizim d'abord, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà. Et là, nous voyons des passages qui sont très marquants là-dessus, déjà du prophète Isaïe, au chapitre 58, hein, d'Isaïe, dans lequel nous voyons le peuple qui jeûne parce qu'il a peur. Hein, voilà. Il y a le temple d'Yahvé, il va nous protéger, tout ça. Quoi. Et là, nous voyons le prophète qui réagit en disant, mais vos jeûnes, ça sert à quoi, hein? Vous savez quel est le jeûne que j'aime? C'est délivrer les chaînes injustes. C'est donner à manger à celui qui a faim. C'est de délivrer le prisonnier. Hein? C'est de casser ceux qui sont enchaînés. Voilà le jeûne que j'aime. C'est-à-dire que le vrai culte à Dieu, c'est le bien et la réussite de l'homme. Et d'ailleurs, c'est très beau ce passage, parce que là, il ajoute, alors à ce moment-là, ta nuit sera soleil de midi. Et le jour et la nuit brillera comme le jour, comme le soleil, c'est-à-dire la gloire de Dieu sera sur toi. Jésus reprendra le même texte à peu près, quand il parlera au chapitre 25 de Matthieu. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle la parabole du jugement dernier. Je n'aime pas beaucoup le titre du jugement dernier, hein, c'est la manifestation du Christ. Et là, ce récit le fait exprès. De montrer que Dieu vient sur sa gloire, sur son trône de gloire, etc., les nations autour, et les anges. Et Jésus dit pas, contemplez ma gloire. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. C'est exactement le texte, hein. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité, vous le connaissez, hein, tout ce texte. Et Jésus vient nous dire, ben, ma gloire, elle est là. La gloire de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que le vrai culte fait à Dieu, c'est, au nom de cet amour de Dieu, c'est la réussite pleine de l'homme qui réussit, bien sûr, toute sa vie en Dieu et qui trouve son bonheur dans le Seigneur. Un autre aspect aussi qui va toujours ressortir dans la... dans la liturgie judéo-chrétienne, c'est le lien entre le geste liturgique et la parole. D'ailleurs, ça commence avec Moïse. Hein. Souvenez-vous, quand Moïse donne la loi, puis ensuite on offre le sacrifice sur l'autel, hein, dans l'Exode, au chapitre 20, verset 22-26. Mais en même temps aussi, qu'on verse le sang de l'animal, le sacrifice, comme à l'époque, il y a le livre de la loi. C'est-à-dire le sacrifice est inséparable de la loi. Hein? Il n'y a pas de rite sacrificiel. Ce qui est premier, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'écriture qui est toujours à découvrir. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que ce peuple qui maintenant reconnaît la présence de Dieu dans le culte qu'il fait, c'est un peuple qui se souvient de son histoire et qui est tourné vers l'avenir. La parole, l'écriture doit devenir une parole vivante. Il faut faire attention. Moi, je distingue souvent l'écriture de la parole. L'écriture, elle est semence de la parole. Mais elle devient parole de Dieu que si elle est enracinée dans notre propre existence. Hein? La semence n'a de sens que si elle s'enracine dans la terre, sinon elle meurt. Voilà. C'est-à-dire, c'est là que j'aime beaucoup le fait que me disait justement, ben là, avec nos frères protestants, je me souviens qu'une fois, on voulait faire une célébration œcuménique et je voulais faire, comme on fait dans la tradition catholique, porter en procession l'Évangile. Ben, le pasteur qui était là dit non. Il dit non. Parce que c'est l'Écriture, c'est pas la parole encore. Hein? L'Écriture n'est pas parole de Dieu, elle est semence de la parole. Et c'est l'Écriture qui féconde la vie qui devient parole de Dieu. Qui parle à nos cœurs, qui parle à nos vies. Parce que la parole de Dieu n'est faite que pour parler à nos cœurs. Alors là, nous voyons aussi, moi je pense, un certain nombre de psaumes qui sont très beaux. Je pense le psaume 50 en particulier, 51, suivant, on comprend l'un ou l'autre, hein, voilà, suivant la traduction des 70. Ben là, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, « Seigneur, crée en moi un cœur pur, refais en moi un esprit ferme, etc. Hein, » voilà. Ben, les sacrifices, tu ne les agrées pas. C'est lorsque j'ai fait ma conversion qu'à ce moment-là, oui, je pourrais offrir des sacrifices. Et je pense au psaume 140, qui dit aussi, non, le psaume 40, pardon, voilà, qui dit que « Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. » Ben voilà, ô Père, je suis venu, tu m'as donné un corps, et je viens pour accomplir ta volonté. C'est-à-dire que l'holocauste et le sacrifice, c'est lié toujours à la parole. Et je pense que là, c'est nous, catholiques, avec le Concile Vatican II, on a retrouvé tout cela. Hein? Oui. On a la table du pain et la table de la parole. Mais dans la Bible, la parole, c'est pain. Hein, c'est ce qui nourrit l'homme, c'est ce qui fait vivre l'homme. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est ce lien profond entre l'un et l'autre que nous avons besoin constamment de faire. Et puis, je dirais aussi que ce lien entre le sacrifice et la parole dans la Bible, c'est la présence de Dieu actuelle avec nous. Et que le culte dans la Bible, ce n'est pas partir d'en bas pour aller en haut. Là, j'ai beaucoup aimé une étude qui a été faite par un pasteur protestant, c'est Alfred Marc, je ne sais pas si vous le connaissez, il est professeur à l'université de Strasbourg. Et il montre bien, dans toute cette étude, par exemple, en partant de l'Exode, comme je disais tout à l'heure, que la démarche de l'alliance et du culte dans la Bible, ce n'est pas nous en bas qui appelons Dieu ici, vers nous, mais c'est la démarche du haut vers le bas, c'est Dieu qui vient vers nous. D'ailleurs, si vous vous souvenez d'un certain nombre de passages dans la Bible, c'est Dieu qui s'invite à nous voir. Prenez le fameux passage des voyageurs d'Abraham, hein, qui passe, hein, et c'est eux qui, oui, c'est eux qui sont invités à entrer. Voilà. D'ailleurs, dans la Bible aussi, on voit, c'est Jésus qui vient, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je rentrerai chez lui. Mais il frappe à la porte, mais il n'enfonce pas la porte. La serrure est de l'autre côté. c'est à nous qu'il appartient d'ouvrir. Alors j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui, ce qui veut dire dans la Bible, prendre le repas, c'est entrer dans l'intimité de l'un avec l'autre. Hein. Les repas du Christ dans la Bible signifient l'intimité que Dieu veut vivre avec l'homme. Alors, là, donc, c'est la parole donc, qui est liée comme présence de Dieu, et que la parole nous donne la véritable mémoire de l'histoire, la véritable mémoire de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Et que si la Bible, si l'alliance est l'alliance avec un peuple, il ne faut pas que ce soit un peuple amnésique. C'est un peuple qui se souvient de son histoire, qui toujours, à travers l'Écriture, se souvient de son histoire et la relie dans une présence actuelle de Dieu dans nous. Car chaque culte biblique, et pour nous aussi chrétiens, ils sont bibliques aussi, hein, je veux dire entre juifs et chrétiens, le culte c'est toujours la présence actuelle de Dieu dans ma vie concrète. Hein, c'est toujours un Dieu qui est sur la marche, qui marche avec l'homme. Hein, d'ailleurs, le premier temple c'est une tente. Hein, c'est la tente qui va marcher avec le peuple hébreu dans le désert. L'arche d'alliance sera sous la tente. Voilà. C'est une marche en avant de Dieu, une présence de Dieu dans cette marche de l'homme. Et cela est vrai pour nous chrétiens dans l'Eucharistie, les disciples d'Emmaüs, c'est sur la route qu'ils rencontrent le Christ. Ils marchent avec eux et ils le reconnaissent à la fraction du pain, c'est-à-dire que le culte que l'on fait là, la fraction du pain, c'est sa présence qu'on ne savait pas voir. Voilà. C'est cette présence de Dieu au cœur de l'histoire. Alors voilà, donc ce sens du culte. Alors j'insiste par là que tout culte, toute liturgie, c'est l'alliance avec Dieu qui nous engage toujours à l'alliance avec nos frères. Et que toute liturgie est source bien d'une justice pour l'homme, parce que le royaume de Dieu se révèle dans la justice. C'est toute la Bible, ça. Hein, voilà. D'ailleurs, si vous vous souvenez, pour nous, Jean-Baptiste, quand il annonce le royaume, il dira que celui qui a deux vêtements en donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même partage. Et quand on se présente à lui pour dire « Le royaume de Dieu arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Il dit « Qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Ben, moi, je suis collecteur d'impôts. » Il ne dit pas qu'il ne faut pas être le collecteur d'impôts. Mais tu sois juste hein, dans tout ce que tu relèves. Parce que le publicain, c'était une profession libérale à l'époque. Hein. On lui versait... Il avait une somme globale à donner aux Romains, puis c'était lui qui tirait. C'est pour ça que Zachée était devenu riche, il était le chef des publicains. Ils employaient des sous-fifres. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis soldat. Il ne lui dit pas de ne pas être soldat. Mais contente-toi de sa solde. Sois pas puissant pour faire du ravage et t'imposer, quoi, de faire des massacres partout où tu vas. C'est le royaume qui conduit toujours à la justice. Pour cela que le combat pour la justice, c'est Paul VI qui le dit, fait partie intégrante de l'Évangile. C'est pas un à côté, c'est partie, hein, ça fait partie. Parce que là, c'est le sens de l'homme. Alors vous voyez que la liturgie, loin de nous enfermer dans un monde religieux, à part de la vie, c'est au contraire l'alliance de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu, de cette alliance profonde qui touche toute notre existence et tous nos engagements et toutes nos responsabilités. Alors, cette présence qui fait que la liturgie est le fondement de nos vies. D'ailleurs, c'est Dieu qui prend l'initiative dans la Bible de dire... Pardon ? Ah, pardon, je m'éloigne un peu. Voilà. Très bien. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative dans la Bible d'inviter l'homme à faire le culte. Hein. Mais il leur donne le véritable sens. Dieu sait si des cultes il y en avait à l'époque. Hein. Voilà. Avec le culte religieux, je l'ai déjà dit souvent, c'est pas comme le culte de l'Alliance. Hein. Le sacrifice de l'Alliance, dans le culte païen, le marin grec, avant de partir en mer, ben, il fallait qu'il se mette bien avec le dieu de la mer, Neptune. Alors il offrait des sacrifices pour pas qu'il y ait des tempêtes sur la mer. Hein. Mais ça, c'est du religieux. Hein. Le sacrifice de la Bible, c'est pas un sacrifice pour s'attirer la bienveillance de Dieu. Mais cela sera toujours en nous. Hein. On aura toujours du religieux en nous. Il faudra toujours convertir sa religion en foi. Voilà. Parce que derrière le religieux, attention, il y a des drames humains aussi. Hein. Et souvent, derrière le religieux, on se tourne vers une divinité parce qu'il y a des hommes qui souffrent, etc. Il faut bien le respecter. Mais le culte dans la Bible, ce n'est pas pour s'attirer la bienveillance de Dieu, c'est pour vivre avec Dieu qui, lui, nous aime le premier, qui, lui, a pris l'initiative de se mettre en route et de nous mettre en route. Alors voilà un peu ce que je voulais dire. Ben, je vais m'arrêter là, peut-être. Hein, parce que, alors là, la liturgie prend tout son sens. Parce que la liturgie, l'étymologie du mot, c'est grec, liturgia, qui veut dire service du peuple. Donc la liturgie, si nous la vivons bien, elle, c'est Dieu qui se met au service du peuple, hein, qui nous donne les moyens, à travers le service qu'il nous fait, de nous réaliser pleinement dans notre humanité et dans notre vie avec lui. Oui, c'est vrai, je voulais quand même vous dire un mot à la fin, là, ça me semble important, parce que en parlant du culte qui doit être au cœur de la vie et du combat de l'homme et des situations humaines, vous savez qu'il existe actuellement depuis 2010 une conférence des responsables de culte en France, qui a pour sigle le CRCF. Hein? Conférence des responsables des cultes en France. Or, cette conférence nous a fait une déclaration par rapport au mois de juillet, le 20 juillet, je ne sais pas si vous la connaissez, par rapport aux situations actuelles, quoi, au Moyen-Orient, dans le monde, etc. Et là, donc, ils parlent d'un commun accord, et je trouve ça important. Mais je,
hein? Pouvez-vous les citer? Personne.
Hein?
Pouvez-vous donner leur nom,
s'il vous plaît? Ah oui, non, mais je vais lire. Hein. Je vais lire leur déclaration. Voilà. Mais je veux dire quand même que cette conférence a pour but, c'est très intéressant, dans le respect des différents courants de pensée et des autres courants de pensée, et par la reconnaissance de la laïcité comme faisant partie du bien commun de notre société. C'est intéressant, hein, voilà. Donc c'est de l'interreligieux, vous voyez, qui a pour but justement de construire, d'être au service d'une société fraternelle. Alors je lis un peu ce qu'ils ont écrit. Devant tant de violences qui déchirent les peuples et qui font tant de victimes, nous, responsables des cultes de France, voulons affirmer à nouveau notre désir de voir s'établir la justice et la paix dans cette région du monde. Nous dénonçons toute tentation d'importer en France ou d'instrumentaliser les divisions d'ordre politique ou la haine entre les religions qui pourraient mettre en cause notre vivre ensemble. Nous refusons l'amalgame, qui ferait correspondre irrémédiablement telle position politique à telle appartenance confessionnelle. Nous encourageons chacun à mesurer la portée de ses propos et de ses actes dans la perspective d'une vie responsable et fraternelle qu'il faut sans cesse construire et affirmer. Nous prions inlassablement pour la paix et confions à Dieu toutes les victimes civiles et militaires. Nous appelons chacun à prier pour la paix en communion avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Ce qui est intéressant, on signait Georges Pontier et Pascal Delannoy, Monseigneur si vous voulez, hein, qui sont de la conférence des évêques de France, les pasteurs François Claveiroli, et Laurent Schlumberger, voilà, Fédération protestante de France. Ensuite, Haïm Corsia et Joël Mergui, grand rabbin de France et président de l'autre consistoire central de France. Monsieur le recteur Dalil Boubaker et Monsieur Anouar Bichbech, conseil français des cultes musulmans. Et puis Madame Marie Stella Bousmermar, et Monsieur Olivier Van Goul, Union bouddhiste de France. Alors je crois que c'est intéressant de se dire que les différentes religions, hein, et qu'à ce moment-là, on est responsable de culte, mais ce culte, il est au cœur de la vie, hein. Il est au cœur de tout ce que les hommes vivent. Alors je pense que la liturgie doit aboutir à ça. Voilà.
Merci beaucoup, Père Barcellini. Vous nous avez donné encore toute une ouverture. Vous avez fait en tout cas entrer en nous encore plus, parce que il y a eu déjà des choses, des mots que vous nous avez dit, des phrases que vous avez prononcées. Mais je pense qu'au fur et à mesure de vous entendre, ça prend sens, quelle que soit notre religion, juives ou chrétiennes, car ça donne sens à l'humain et à l'humanité. Et je crois qu'en ce moment, on en a beaucoup besoin. Effectivement, ce que vous nous avez lu là, concernant cette prière commune, finalement, de toutes les religions de France, en tout cas, pouvant aboutir à que la paix soit là, et qu'à travers les mots que nous puissions dire auprès de Dieu, devant Dieu, qu'il soit, comme vous dites parfois, au niveau du service. Là, nous sommes peut-être un petit peu dans une différence, c'est-à-dire que dans la tradition juive, nous sommes là aussi pour vraiment servir Dieu, le culte. Le culte est un service. Mais en même temps, bien sûr, Dieu est présent et nous espérons qu'il nous entend. Nous lui demandons souvent une réponse et nous attendons. Mais là, je ne sais pas s'il y aura réponse. Je crois que oui, dans nos cœurs, si nous sommes à l'écoute, c'est ce qui était dit dans ce qui est de l'ordre de la prière. Moi, j'aimerais soulever une question et j'espère qu'il y aura des réponses de votre part. Et puis peut-être ça soulèvera aussi le dialogue. Parce que je vois que vous avez le livre ici, où la prière d'Israël aux sources de la liturgie chrétienne. Moi, j'avoue que ce livre m'a beaucoup parlé il y a des décennies en arrière. Et c'est vrai que j'aurais voulu que vous nous disiez peut-être un peu plus comment la prière s'est construite, même si je pense que nous savons ou nous avons une idée, pour vous, chrétiens en tout cas, comment s'est-elle construite par rapport à ce que vous dites pendant les cultes, les mots que vous employez, les rituels que vous avez, comment est-ce que vous avez votre connaissance là-dedans, puisque ce que vous dites, que ce soit dans le monde catholique, il y a une façon de dire, le monde protestant une autre, le monde orthodoxe. Alors nous le saurons ça, puisque nous aurons ces diverses personnes qui viendront. Mais vous, en tant que catholique, quelle est cette lecture qui a pu se faire et qui est maintenant parole dans vos prières, quand vous donnez les prières et vous faites la prière et que les personnes vous suivent, répètent derrière vous, parlent avec leur cœur, nous l'espérons tous, n'est-ce pas? Comment, quelle est l'origine? Quelle est l'origine? Pour vous, pour le monde catholique?
Alors, moi je parle pour le monde catholique, hein,
oui. Voilà.
Pour le monde catholique, si vous voulez, la prière, ben, il y a un passage dans l'Évangile où les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier. » Voilà. Et au fond, Jésus n'a pas rassemblé les disciples pour leur dire « Je vais vous faire une leçon de prière. » Je vais dire une chose assez importante, il n'a jamais été un maître de prière. Il ne nous a pas enseigné des prières. Hein? Il nous donne sa prière. Et il nous fait participer à sa prière en communion avec lui. C'est pour cela que, là, il faudrait qu'on déploie, mais ça vaudrait le coup une fois, le Notre Père. Or, le Notre Père, vous trouvez les demandes du Notre Père dans toute la tradition juive, dans l'Ancien Testament aussi, hein? Dans toute l'histoire d'Israël. Alors, ça veut dire que la prière, c'est entrer en communion d'abord avec Dieu, mais dans un Dieu qui est en action, qui n'est pas un Dieu dans un ciel inaccessible auquel on va lui dire « Interviens ».
Les paroles.
C'est un Dieu qui est avec nous.
Qui sont dites, les paroles qui sont dites quand vous priez, les paroles que vous dites.
Ben, les paroles, ben, nous avons les paroles du Notre Père, c'est-à-dire, nous avons, bon, d'abord, il faut bien dire que quand nous prions, ce que je n'ai pas parlé, j'ai parlé tout à l'heure des psaumes, hein. Or, dans nos traditions catholiques, ben, moi, comme prêtre, on a ce qu'on appelle la prière des heures, ce qu'on appelait autrefois le bréviaire, hein. Et les moines, remplissent leur journée avec des horaires de prière. Alors, qu'est-ce que c'est que ces horaires de prière? C'est les psaumes. C'est les psaumes, et pour ça que les psaumes, ben c'est la prière de l'homme en situation concrète, réelle. De l'homme en désespoir, de l'homme dans la joie, de l'homme dans le combat, de l'homme en guerre, etc. Hein? Pour ça que les psaumes, c'est, comme je disais tout à l'heure, que dans un peuple, c'est la personne, hein, que la réponse personnelle est toujours liée. Elle nous construit comme peuple. Les psaumes, c'est une prière personnelle, mais c'est en même temps la prière de l'expérience de gens au cœur d'un peuple. Alors pour moi, catholique, ben la prière des psaumes tient une place très importante. Ce qui fait qu'avec, d'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois, je pense que la communauté juive est allée plusieurs fois à Tamiers, avec les moines. Et là, donc, ils ont pu échanger, vous vous souvenez, hein, je crois que vous y étiez, hein, c'est ça. Et là, ils ont pu changer avec les psaumes, voilà.
Et même les moines sont venus pour Kippour avec nous.
Hein?
Même les moines de Tamiers sont venus pour une soirée de Kippour avec nous.
Bien sûr. Ben, les psaumes, ça fait partie de nos vies, hein. Alors maintenant, il y a tout l'esprit de la prière.
Voilà.
C'est-à-dire que l'esprit de la prière, pour moi, et dans l'esprit de l'Évangile, je pense, et puis dans la Bible aussi, il n'y a pas de différence entre prière et action. Nous prions à Dieu qui est toujours en train d'agir pour l'homme et avec l'homme. Et je ne vais pas dire à Dieu d'intervenir, je rentre dans son action. Toute prière est une conversion du cœur qui nous conduit à entrer dans l'action de Dieu. Si je prie pour la paix, mais Dieu travaille pour la paix. Seulement, il ne fait jamais les choses d'une manière automatique. Comme me disait un rabbin à propos de la Shoah, il disait, si l'homme n'écoute pas, Dieu ne peut rien faire. Hein? C'est l'écoute de l'homme. C'est-à-dire, je participe à l'action de Dieu au cœur de la vie du monde et des hommes. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre action et contemplation. C'est-à-dire que pour moi, regarder l'action de Dieu dans la Bible, c'est retrouver ma propre vie et ma propre action, que je vis avec lui. Je parle, j'aurais beaucoup de choses à dire.
Merci. Alors, peut-être, voilà, d'autres questions. Tu t'apprends.
Compléter un petit peu justement ce qu'on vient de dire pour savoir qu'est-ce que vous pensiez de l'opposition entre le côté répétitif, et on pourrait presque dire rengaine, de la liturgie par rapport à la dynamique de la création et de l'accomplissement. Je force un petit peu sur la notion de rengaine, donc on fait toujours les mêmes prières tous les jours et finalement on fait du... Oui. Oui, je vais répéter. Oui, c'est vrai. Donc, ce que vous pensez du côté, enfin, de l'opposition qu'il y a entre le côté répétitif, où on répète toujours les mêmes prières tous les jours, et le côté dynamique qu'il y a dans l'accomplissement et la création. Vous voyez ce que je veux dire ?
Prière que nous répétons.
Nous répétons, voilà.
Et puis le, c'est ça, oui. Et puis le dynamisme de la création, c'est ça, qui est toujours une nouveauté, la création. Moi, ça me gêne pas beaucoup. Je sais pas ce que vous pensez, mais prenez deux êtres qui s'aiment, ils répètent souvent les mêmes choses, hein. Puis en répétant les mêmes choses, eh ben ils s'aiment davantage. Voilà. Hein? Ils peuvent me dire, tu m'as pas dit ça aujourd'hui. Hein? Donc je pense, c'est vrai. Hein? Moi je pense que c'est pas tellement la répétition des paroles, c'est l'attitude du cœur. Ouais. Enfin, pour moi, hein, c'est ça. Et que si ma prière s'adresse à une personne vivante qui agit, eh bien, même si elle dit les mêmes mots sont toujours nouveaux. Parce que quand on s'aime, les mots ont toujours des sens nouveaux. Hein. Le même mot. Hein, voilà. Je sais pas, pour moi, c'est un peu ça.
C'est une super belle réponse, vraiment. Merci beaucoup, elle est magnifique, votre réponse.
Dans le judaïsme, l'origine de la prière, c'est le service quotidien et répétitif du service du temple. Les sacrifices, c'était tous les jours, même le Shabbat. Alors que tout est interdit, le Shabbat. Et bien, même le Shabbat, dans nos prières que nous lisons maintenant, nous rappelons en quoi consistait le service des sacrifices du Shabbat. Parce que les services, selon les jours, selon les moments, selon les fêtes, étaient totalement différents. Quand il y a eu la destruction, il y a eu les élites qui ont été transportées à Babylone. Et à Babylone, ils se réunissaient devant un fleuve, et ils pleuraient Jérusalem. Mais en attendant, ce sont ces gens-là qui ont, en pleurant et en chantant, qui ont institué la prière pour remplacer le service au temple. La prière était destinée devant cette absence du service du temple, et puis le deuxième temple a été reconstruit, et on a considéré, il a été détruit le même jour, à la même date hébraïque, et on a confirmé ce que je viens de dire, c'est-à-dire à l'origine, ceux qui étaient en exil à Babylone, ce sont eux sur lesquels on a compté pour recommander les prières. Voilà l'origine des prières dans le judaïsme.
Merci. que ce soit toi qui dise. Alors.
Mais là, c'est la prière du peuple. Là, le temple, c'est, on se réunissait pour la prière. Hein. Mais je pense qu'on voit quand même dans la Bible la prière déjà personnelle, déjà. Hein. Abraham, il n'y a pas le temple. Il prie Dieu. Hein. Je pense que, si vous voulez, le temple, c'est la prière du peuple. Hein. Rassemblé. Hein. Mais il y a toujours, je me semble, dans la Bible, la prière personnelle des personnes hein, qui sont dans les situations dans lesquelles ils se trouvent. Hein. Je ne sais pas.
Hein. Il y a moins dans la tradition juive, il y a moins la prière. Pardon. Dans la tradition juive, il y a effectivement un rituel très très défini et il y a peut-être un petit peu moins la prière personnelle. En tout cas, à la synagogue, même s'il y a des passages qui sont dits en commun, comme par exemple prier pour le pays dans lequel on vit, prier pour nos dirigeants. Vous voyez, ça pourrait être personnel, mais c'est communautaire et on en a besoin. Mais effectivement, personne ne nous empêche chez nous de prier. Mais ce qui est sûr dans la tradition juive, c'est déjà pour une prière en commun, il faut être déjà 10. En principe, c'est 10 hommes. Chez les libéraux, c'est aussi 10 hommes et femmes. Donc, c'est déjà plus souple. Donc, ça demande, c'est encore un autre rituel. Et là, on est dans un phénomène de liturgie qui est vraiment, depuis la destruction, du deuxième temple et depuis la diaspora. Les prières ont été mises par écrit de façon à ce qu'elles soient, comment dirais-je, qu'elles restent posées avec des mots bien précis, mais il faut savoir des mots de l'époque, parce que justement, il y a, et notamment dans le dernier ou l'avant-dernier sens, un des paragraphes sur la responsabilité de la liturgie, et notamment de la liturgie juive, en fonction des autres religions. De la même façon qu'il y a une responsabilité de la liturgie chrétienne en fonction de la religion juive. Et il y a eu, avant Nostra Aetate, il y avait des mots extrêmement violents contre les juifs qui étaient dits régulièrement dans les prières. Ce qui faisait que les gens le disaient, d'ailleurs j'espère qu'ils ne le disaient pas trop avec le cœur. Que là, justement, il le disait peut-être que simplement par habitude et qu'il ne savait pas trop ce qu'il disait parce que c'était quand même terrible. Juif déici des perfides, on l'a porté jusqu'à il y a encore 50 ans. Mais dans les prières juives, il faut savoir aussi qu'il y avait la séparation et que au début, surtout quand elles ont été mises vraiment par écrit là, c'était vers le 8e, 9e siècle. Donc c'est tardif. Et qu'avant c'était répétitif et que ça se disait de bouche à oreille, mais toujours quand même avec les mêmes mots. Et il est sûr que dans ce moment-là où ça a été écrit, et dans ces périodes-là, il y avait par exemple le temps des croisades, il était sûr que les Juifs demandaient à ce que ces croisés qui trucidaient le monde juif entre autres, disparaissent et demandaient à Dieu. Et beaucoup plus tard, ça a été changé, non seulement par les Juifs, mais ça a été aussi interdit par les chrétiens qui avaient vu les livres et qui avaient interdit cela. Et au fur et à mesure, ça s'est adouci, les mots ont été changés au fur et à mesure des siècles. Et comme vous le disiez si bien, de la conscience, de l'évolution de la conscience. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 2000, 3000 ans, même si notre cœur parle de la même façon et que nous allons dans la prière vers Dieu. Mais on a une très grosse différence et je pense que là, ce sera Eric Ackermann qui nous parlera de cela quand il viendra, au mois de janvier je crois, des mots, M-O-T-S dans la prière et il expliquera la liturgie juive. Elle est très particulière, mais surtout je voulais dire, vous faire dire que effectivement la prière d'Israël est au cœur de la liturgie chrétienne. Et moi ça m'avait beaucoup touchée, à l'époque je ne connaissais pas grand chose à tout cela, et j'avais découvert qu'effectivement même les évangiles, lorsqu'on en fait une lecture juive, c'est assez extraordinaire, puisque il y a une façon, même si les évangiles c'est très particulier, mais au niveau des prières en tout cas chrétiennes, alors là j'englobe peut-être un petit peu, il y a vraiment des choses semblables à la prière juive. Hormis, moi quand je vais par exemple avec mon mari protestant, il y a des tas de phrases concernant le Père que je peux dire parce que ça me parle totalement. Après, bien sûr, si on parle de Jésus, pour une personne juive, elle ne va pas prier Jésus. Mais donc, comme quoi il y a des liens communs, et si c'est dit avec le cœur, comme toujours. Mais nous, le travail du cœur, parce qu'il y a la avoda alev, n'est-ce pas, c'est-à-dire la prière du cœur, et je pense que dans le monde chrétien, on voit le cœur qui est plutôt le cœur, et quand j'en avais parlé au Père, il disait non, comme nous on le dit, c'est la pensée. C'est l'intellect. Donc il y a un travail qui se fait quand on lit nos prières, qui est plutôt un travail de recherche, de compréhension, mais c'est vrai avec notre cœur. Et puis il y a un travail de service divin. Ça, c'est ce que tu disais. Voilà.
J'ai besoin d'ajouter une précision, en deux mots, pour éviter les malentendus. S'il n'y a pas de synagogue, ou bien, quand il y a une synagogue et il n'y a pas les 10 personnes, il n'y en a que 9 par exemple, on se sépare, et s'il n'y a pas du tout de synagogue, le devoir est de prier tout seul, chez soi, en mettant les articles de prière, le châle de prière, les téphilines, je ne sais pas le mot en français, j'ai oublié. Téphiline. En hébreu, c'est téphiline. En français, j'ai oublié, excusez-moi. Donc, l'essentiel, c'est que ce n'est pas pour le prétexte qu'il n'y a pas le minyan, c'est-à-dire les 10 personnes présentes, que ce soit dans une synagogue ou que ce soit dans une maison, qu'on est dispensé de faire la prière. Chacun de nous doit faire sa prière. Ça, c'est le devoir qui nous est recommandé. Ça, c'est la recommandation. Chacun doit faire sa prière, même s'il est tout seul. Merci. La prochaine fois, j'amènerai une photo d'un ami très personnel, mais qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et la photo de quand je le voyais faire la prière chez lui, très, très complètement et correctement.
Mais c'est vrai, nous vivons ça aussi, parce que nous, comme prêtres, nous avons le livre des heures, hein, ce qu'on appelait autrefois le bréviaire. Ben là, ça prendrait une heure par jour de prière. Hein, ben là, tout est prévu, tellement prévu qu'il y a des règles liturgiques pour tel jour, hein, à tel point qu'on se dit, c'est compliqué de prier, hein, parce que voilà, faut qu'on suive des règles. Voilà. Alors, mais là, évidemment, c'est la fonction de la prière. Mais là, on se prie dans la communauté, en église. Mais en même temps aussi, si on regarde dans les évangiles, Jésus insiste bien, un peu comme vous dites, hein, toi, quand tu pries, enferme-toi dans le secret. Et prie le Père qui est dans le secret. Voilà. C'est-à-dire, c'est la réaction par rapport à la prière collective, où on est porté par une prière un peu dépersonnalisante, et qu'il y a de prière collective que s'il y a une prière personnalisée. Je dis souvent dans mes homélies, il m'arrive de dire, quand nous faisons notre profession de foi, nous ne disons pas « nous croyons en Dieu », nous les catholiques, protestants non plus, je crois. Nous disons « je crois en Dieu ». Et c'est extrêmement important. Parce que nous pouvons dire « nous croyons, nous », que s'il y a une communion de « je ». Comprenez ? S'il n'y a pas une communion de je, on est dans le on impersonnel. Voilà. Et si nous disons nous croyons en Dieu, ça peut être une idéologie à ce moment-là. On est porté par un collectif. Voilà. Donc ma foi, c'est ma réponse personnelle, elle est véritable. Et c'est pour ça que quand je dis je crois en Dieu, c'est l'acte le plus communautaire qui soit. Parce que je suis chacun d'entre nous en relation personnelle avec le Seigneur. Ce qui veut dire que la prière personnelle, c'est celle qui construit aussi la prière communautaire. D'ailleurs, Jésus a bien des prophètes qui disent, je ne sais plus lequel, disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais non du cœur. C'est ça.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions ?
Dans la prière, bien sûr, nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Mais que répondent à ceux qui vous parlent du silence de Dieu ?
C'est vrai, ça reste une question fondamentale, ça. Hein, puisque même dans les psaumes, hein, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que Jésus reprend, d'ailleurs, ou qu'on met sur les lèvres de Jésus quand il est en croix. Voilà. Alors, en effet, c'est que c'est un peu la période difficile dans nos vies à certains moments. Hein, parce qu'on voudrait qu'un Dieu intervienne, quoi, c'est ça. Or, la foi, c'est pas les signes de l'action de Dieu, c'est la certitude de sa présence. Voilà. Or, la prière, ce n'est jamais, si vous voulez, faire intervenir Dieu. Hein. Elle part d'abord de ma foi en Dieu, hein, qui agit, parce que la foi au Dieu auquel je crois, c'est le Dieu qui agit au cœur du monde. Or, cette action, elle est parfois invisible, et parfois il y a la silencieuse. Voilà, hein. Alors, il est vrai que là, même quand on lit dans la vie des mystiques, nous, je pense dans la foi catholique, hein, un certain nombre de saints, qui ont traversé ce qu'on appelle des nuits. Hein. C'est-à-dire, ils ont l'impression que Dieu n'est plus là. Voilà. Mais je pense qu'eux ont traversé ça comme une espèce de purification, quoi, d'une absence de Dieu qui doit être découverte comme présence. Voilà. Mais là, c'est sûr que notre prière n'est jamais la demande de miracle. Hein. Nous, par exemple, Saint Jean de la Croix dit, la recherche du miracle, c'est un manque de foi. Voilà. Donc c'est notre prière, c'est la relation personnel avec lui, et donc c'est l'acte de foi que nous avons en lui. Voilà. Maintenant, c'est douloureux, parce que moi je ne peux pas dire, hein, ça c'est lorsque quelqu'un vit dans une situation difficile, je pense qu'il n'y a pas de réponse toujours tangible et sensible de Dieu. Mais je sais qu'il est là. C'est ça notre foi. Hein. Voilà. Alors là, c'est tout le problème qu'on trouve dans la Bible, c'est le problème de Job, etc. Hein.
Je voudrais donner à monsieur qui a posé la question une sorte de réponse. Dans le judaïsme, les kabbalistes ont cherché à répondre à votre question. Et ils ont trouvé une sorte d'astuce. C'est le tzimtzum. C'est ça la réponse. Il a dit, ils ont trouvé que Dieu s'est retiré le huitième jour et il a confié le reste à l'homme. Donc celui qui peut répondre à la place de Dieu, c'est l'homme. Pour répondre à la question du livre qu'on a traité ici déjà, mais il y a longtemps, pendant la Shoah, où était Dieu ? Il n'y a pas seulement la Shoah. Et quand il y a eu les excès et les massacres en Afrique, au Rwanda, etc., etc. Et aujourd'hui, ça se multiplie partout, que ce soit dans toutes les croyances, y compris dans les croyances asiatiques. Et donc, c'est la seule trouvaille qu'ils ont faite, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire c'est l'homme qui doit répondre. Et en réalité, pendant ce qui s'est passé pendant la Shoah, Beaucoup de pays responsables se sont tus. Ils ont préféré se taire et ne pas du tout intervenir en justice. Il n'y a pas eu de justice.
Alors il y a eu pendant la Shoah et notamment pendant le ghetto de Varsovie, il y a une lecture absolument magnifique d'un texte d'un monsieur Rakover et qui dit, et nous le lisons à Kippour. D'ailleurs ils se sont trompés de nom, ils ont mis Krasover et c'est mon nom de famille. C'est incroyable. Et là-dessus, quand on lit ça, eh bien c'est de lire que mon Dieu, avec tout ce qui se passe à Varsovie là, on va tous mourir et nous sommes tous en train de mourir et je vais mourir. Alors je te dis que malgré tout ce que tu fais pour m'empêcher de vivre, alors je ne sais pas, c'est ce que tu fais, on va dire ce que les hommes font, mais tu n'es pas là, j'ai toujours et j'aurai toujours foi en toi. Et c'est d'une puissance, nous lisons ça à Kippour, ce jour du grand pardon, c'est d'une puissance, c'est ce que vous avez dit. Et même s'il y a le retrait, effectivement, parce que c'est l'homme, effectivement, qui doit agir. C'est la main tendue qui aide à ce qu'on souffre moins. Simplement une main tendue. Et ce qu'on peut reprocher aujourd'hui encore, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mains tendues. On parle sur un plan très général de tout ce qui se passe. Et ça, oui, c'est vrai. Mais Dieu, il est là. Puisqu'il est en nous, il est dans l'homme, il est dans l'humain, il est avec l'humain. Mais il faut que nous réagissions.
Oui, là, nous abordons une question, ça demanderait beaucoup de réflexion, hein, parce que c'est la présence au cœur du mal, quoi, hein, de Dieu qui est là. Là, je pense, en fait, ce qui m'avait marqué, c'est, là, je pense, il y a Geneviève Antonio de Gaulle, oui. Que vous connaissez, qui avait écrit... La traversée de la nuit. Elle était déportée à Ravensbrück, toute jeune. Hein. Et là, elle a une très belle prière, dans laquelle elle dit, Seigneur, nous ne te demandons pas de nous libérer. Et nous ne voulons pas être libérés tant que nos sœurs ne sont pas libérées avec nous. Et même si tu nous envoyais des anges pour nous libérer, nous refuserions tant que nos sœurs ne sont pas libres. Alors je dis, Dieu, il est là. Il est là dans ce courage de vie, quoi, hein, c'est ça, hein, c'est ça, dans cette solidarité que les hommes vivent à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, d'autres... Oui, Pierre.
Là, je vais amener un autre regard qui m'interpelle, qui est de la prière, mais je parlerai du jeûne. Est-ce que le jeûne, on peut le considérer comme aussi une forme de prière ? Parce qu'on ne jeûne pas pour le plaisir de jeûner, on jeûne parce que le Seigneur nous demande de jeûner, tout en priant. Voilà. Donc, est-ce que le jeûne fait partie de la prière ? Est-ce qu'il accompagne la prière ? Est-ce que c'est une forme de prière ?
Oui, en effet, c'est une bonne question parce que le jeûne fait partie beaucoup de la vie religieuse, dans beaucoup de religions. Hein. Alors... En effet, je crois qu'il y a le jeûne dans le monde juif, hein, vous avez donc ça. Mais le jeûne est toujours lié à la prière, mais à une prière aussi qui est solidarité avec les autres. Si vous voulez, le jeûne, c'est toujours la possibilité, c'est-à-dire je vis dans mon corps, hein, d'une manière réelle et physique, hein, la faim, mais qui doit me conduire à mieux comprendre la faim des autres, à mieux comprendre la souffrance des autres. Parce qu'en ce moment, si je fais du jeûne simplement un acte religieux, hein, je ne suis plus dans la ligne de l'alliance avec Dieu. Oui. C'est pas à ce moment-là, je fais du jeûne un moyen de faire pression sur Dieu pour m'accorder ses bienfaits. Je sais si le jeûne, la grève de la faim sont des moyens de pression. Hein. Alors au fond, mon jeûne devant Dieu n'est pas un moyen de pression sur Dieu. Le jeûne, c'est le chemin d'une solidarité que je vis avec d'autres. D'ailleurs, dans le, si vous voulez, nous voit bien dans le carême, et je crois qu'on se retrouve aussi avec les juifs, hein, les trois temps, le jeûne, l'aumône et la prière. Voilà. Bon. Mais le jeûne, c'est toujours par solidarité avec les frères. Sinon, alors à ce moment-là, c'est un acte du culte, hein, c'est ça ce qui n'aurait pas, hein. Mais le vrai culte, c'est justement l'amour fraternel. Comme l'aumône. L'aumône dans la Bible, c'est très poussé. C'est très lié à la justice. Tzedek. Tzedek qui est la justice. C'est-à-dire que quand tu fais l'aumône, ça veut dire quoi? Tu t'engages à établir un monde de justice. Oui. C'est pas un acte simplement par lequel tu vas acquérir des mérites devant Dieu. C'est pour cela que Jésus dit bien, l'aumône pour être vu et pour avoir des décorations, ça marche pas, ça. Hein. L'aumône est fait pour que tu puisses, dans ton geste, engager pour rétablir un monde plus juste. Comme aussi le jeûne, si je le fais, c'est pour qu'il y ait un monde qui n'ait plus faim. Sinon...
Oui, par rapport à la Shoah, on peut se poser des questions. Bien sûr que Dieu semble ne pas avoir répondu, mais si on regarde l'histoire depuis 2000 ans, il y a eu la création, le retour des Juifs dans Israël, qui s'est fait quelques années après. Il y a eu l'Église catholique qui, au Concile, a changé d'attitude par rapport aux Juifs. Donc, il y a eu des réponses à la Shoah qui sont faites dans l'histoire humaine. C'est comme si il fallait toujours que nous, les hommes, on soit au paroxysme. Enfin, c'est comme dans la vie de Jésus, comme pour les chrétiens, il faut toujours arriver au paroxysme du non-sens et tout, pour comprendre un peu, pour que notre cœur s'ouvre et pour comprendre la vérité. Et vis-à-vis du monde juif, là, il y a la Shoah, je pense que ça a été un... Peut-être que sur le coup, tout le monde n'a pas compris, mais on a eu le temps de nos parents ont eu le temps de réfléchir, etc. Et l'histoire, par rapport au monde juif, les chrétiens ont commencé à changer. Et peut-être que Dieu aussi, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est passé dans le cœur de Dieu à ce moment-là.
Là, vous touchez un problème de fond, hein. C'est-à-dire que c'est l'action de Dieu dans le mal dans le monde, hein. C'est par rapport au mal, c'est ça, et par rapport à la destruction de l'homme. Mais je pense que, si vous voulez, la réponse que Dieu fait à Job, c'est de dire, attention, hein, le monde, il y a les hommes tels qu'ils sont, et les hommes doivent changer. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, la providence n'est pas Dieu qui va agir directement sur les événements. La providence est l'action de Dieu dans le cœur de l'homme. Voilà. Donc Dieu agit dans le cœur de l'homme. Hein, mais il n'agit pas directement, si vous voulez, pour faire changer les événements. Pour moi, dans ma foi, aucun événement n'est envoyé par Dieu. Mais Dieu vit, sinon à ce moment-là, nous faisons le Dieu qui est la providence de l'histoire. Hein. Mais Dieu est présent dans tous les événements et il nous appelle à entendre sa parole, à l'approfondir et à nous engager pour nos frères. Voilà comment je conçois.
Qu'est-ce que vous pensez de Jeanne d'Arc, quand Dieu intervient dans l'histoire de France et qu'elle est honorée par tous les Français? Dieu est intervenu dans l'histoire de France, mon cher. Des milliers de fois.
Attendez, je n'ai pas bien compris ce que c'est.
Dieu intervient dans l'histoire.
Jeanne d'Arc.
C'est l'Église qui nous le dit. C'est la foi, c'est l'histoire.
Dieu intervient dans l'histoire.
Faut arrêter.
Jeanne d'Arc.
Alors, on ne fait pas une nouvelle religion ce soir, mon père. Dieu, il intervient dans l'histoire. Bien sûr qu'il
a... Non, mais Jeanne d'Arc. Mais...
Il intervient, mon père.
Ah, non, ça, alors là, c'est notre manière de voir. Hein. Parce que Jeanne d'Arc, qui a entendu.
On a traversé les siècles des idéologies, le marxisme, tout ça, il faut laisser ça derrière, mon père. Maintenant, on revient à la Bible. La Bible, c'est l'homme qui agit, mais Dieu aussi, il agit, il se permet d'agir.
Dans la Bible aussi, on voit que Dieu intervient dans l'histoire.
Vous dites que Dieu, il n'y a pas de providence. Mais si, il y a de providence.
Attendez-moi, j'ai pas de...
Monsieur, s'il vous plaît. On va rester dans le sujet, on va rester calme. La providence, ça, c'est personnel à chacun, peut-être vous. Moi, je peux répondre une chose, monsieur, pour ce que vous avez dit concernant la Shoah. Je pense que je ne peux pas trop entendre ce que vous dites. Uniquement parce que, si je pense qu'il a fallu que 6 millions d'hommes et femmes, dont les trois quarts de ma famille, partent dans les camps ou voire tués sur place en Russie et dans tout ce que le père des Bois a découvert, c'est insupportable pour moi, monsieur. Je ne peux pas penser qu'il y aurait quelque chose qui a fait que, grâce à la Shoah, l'État d'Israël existe. Grâce à la Shoah, Nostra Aetate existe. Grâce effectivement à Jules Isaac, qui a perdu toute sa famille, il a créé l'amitié judéo-chrétienne en France. Oui, des choses très graves font que les hommes vont changer un petit peu de mentalité, et pas tous, hein, on le voit d'ailleurs, pas tous. Mais je ne peux pas penser qu'il y a une action de Dieu là-dedans, parce que ce serait quand même... Moi, vous savez, ma question, tout le temps de ma vie, c'est ma seule question, pourquoi est-ce qu'il y a eu la Shoah? Pourquoi? Parce que, je le dis bien, uniquement parce que je suis juive, cette question, elle est dans mon cœur et elle ne cesse de m'en hanter. Avec évidemment la peur que ça recommence sous une autre forme. Mais attendez, et de me dire, t'étais où mon Dieu? J'ai pu lui demander ça X fois. Ben, la réponse, je l'ai eue à chaque fois, quelque part, parce que j'ai ouvert ma conscience. Agis ma fille, vas-y, allez, amitié judéo-chrétienne, j'ai eu de la chance... parce qu'il m'a mis sur le chemin grâce à une revue catholique que je lisais dans les années 80 dans Annecy catholique. Et il y avait des écrits sur Pâques, la Pâque juive. Oh, je me suis dit, mais c'est merveilleux, il y a des catholiques qui écrivent des belles choses sur la Pâque juive, Pessah. Donc j'ai voulu savoir qui, et puis j'ai rencontré Jeannette, j'ai rencontré le père Barcellini. Il m'a mis sur le chemin. Mais il n'empêche que ça, je suis désolée, je ne peux pas et je ne pense pas que mes amis juifs ici puissent l'entendre. C'est trop dur. C'est un prix trop cher à payer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être d'autres réflexions? Et puis sans cela, c'est vrai que... Oui, peut-être Jean-Albert.
Oui, la dernière.
Oui, peut-être en conclusion, mais tu nous l'as très bien indiqué, ce qui est très important pour les années à venir et les décennies, c'est d'insister sur ces prières communes interreligieuses. Ce qui est très important, c'est le respect des églises les unes par rapport aux autres. Et ce que nous assistons, je vais le dire, au Proche-Orient, et puis maintenant sur toute l'Afrique, même l'Afrique noire, on a l'impression qu'il y aura beaucoup de guerres de religion en Afrique noire. On se demande s'il n'y aura pas d'autres guerres de religion en Extrême-Orient, dans les Philippines, un petit peu partout. Ça peut même remonter au-delà du Pakistan, les relations entre le Pakistan et l'Inde. Ça fait très peur. On a quand même des perspectives de guerres de religion, et je pense que ce soir, ici, nous tous ensemble, on doit extrêmement insister hein, et d'une manière même répétitive sur l'avenir de nos églises, c'est le respect et le lien fraternel entre nous tous. On ne peut pas accepter dans le silence ces guerres de religion à travers le monde. C'est désolant. On a l'impression qu'on revient à la barbarie quand on écoute les actualités sur ce qui se passe en Afrique et au Proche-Orient.
La politique et la religion. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et on nous fait croire que ce sont des guerres de religion, alors que ce sont des guerres de politique. Et c'est pour le fric, pour les armes, et pour la vente, et pour le pouvoir. Voilà. Merci.
Alors peut-être pour... Merci. Merci, Père Barcellini. Merci à lui de nous avoir fait ça. Belle conférence sur l'homme. L'homme, l'humain. Ah oui. On va vous mettre à nouveau des petits papiers. Oui, oh, je vous en prie.
C'est-à-dire que le diocèse organise. Vous verrez la date. Attendez-moi, c'est au moins le temps.